nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le mystère de l'Épiphanie se situe, comme de juste, dans le prolongement de celui de Noël. Pourquoi ? Noël, c'est l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Noël, c'est Dieu qui vient dans la chair. Mais quelle est la finalité de l'incarnation ? Comme je vous le disais, le jour de Noël, si Dieu vient dans la chair, c'est que Dieu a voulu se rendre visible en assumant une nature humaine. Et il a voulu se rendre visible pour nous attirer aux réalités invisibles. Il vient prendre notre nature humaine pour nous racheter, pour descendre jusqu'à nous, afin de nous attirer jusqu'aux biens les plus spirituels. Si Dieu s'est rendu visible, ce n'est donc pas pour rester caché. Et si pendant 30 ans, le Christ va néanmoins vivre caché afin de préparer sa mission, il n'en reste pas moins vrai que le fait de rester caché avait pour finalité uniquement cette préparation, cette disposition à une plus grande manifestation, ce qui va se réaliser pendant ces 3 années de vie publique. Pour bien montrer que sa vie cachée n'était pas justement le sommet de toute sa vie, mais juste une préparation, notre Seigneur, à plusieurs reprises lorsqu'il est jeune, ou plutôt à quelques reprises lorsqu'il est jeune, va se manifester au monde. Non pas par des miracles à proprement parler, mais juste en étant présent à des lieux bien définis. Noël avec les bergers, ensuite il y a les mages, mais il y aura aussi ces diverses apparitions dans le temple, lors de la circoncision, ou également, eh bien, lorsqu'il va parler avec les docteurs du temple. Oui, notre Seigneur a voulu se rendre visible pour manifester en lui la divinité, pour montrer sur son visage la face du Père. « Qui me voit, voit le Père », veut dire notre Seigneur dans l'Évangile. Alors comprenons bien que cette épiphanie, eh bien, est comme une anticipation de ce qui va se passer pendant sa vie publique. Le Christ Jésus se manifeste, pas avec un miracle cette fois-ci, de manière personnelle, mais il va y avoir cette étoile qui va conduire les hommes de bonne volonté, ces mages, qui vont se dire « cette étoile, eh bien, représente quelqu'un ». Cette étoile, c'est un signe que Dieu nous donne et qu'il faut suivre. En conscience, ils doivent suivre cette étoile. Alors, eh bien, ils avancent et ils trouvent effectivement l'enfant Jésus. Manifestation au monde qui se fait néanmoins par étapes. Avant que les mages n'arrivent et offrent leurs cadeaux, la manifestation de Dieu au monde se fait à travers la Sainte Vierge, ou plutôt se fait à la Sainte Vierge. C'est bien l'archange Gabriel qui va dire à la Sainte Vierge, la première, à savoir que Dieu va se manifester, que Dieu vient dans le monde. L'archange Gabriel annonce à la Mère de Dieu qu'elle va être la Mère du Sauveur. À Marie, mais également à Saint Joseph ensuite. Et vous voyez que le bon Dieu fait tout dans l'ordre. La première concernée, mais ensuite c'est Saint Joseph. Et alors, un ange vient lui dire « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. » Et il lui dévoile le grand mystère de l'incarnation avant même que notre Seigneur ne paraisse au monde. Il n'est que conçu et déjà Saint Joseph est mis au courant. L'Esprit Saint, c'est ce qui est en le sein de la Sainte Vierge, vient de l'Esprit Saint. Il est manifesté ici que c'est bien Dieu qui a agi. Marie, Joseph, mais nous savons aussi que les bergers et les juifs ont été mis au courant, et cela le jour même de Noël. Enfin, il y a les païens. Après que les juifs sont mis au courant, il y a les païens qui sont symbolisés par les rois mages. Effectivement, tout est dans l'ordre. Marie, Joseph, les bergers et les juifs, et ensuite les païens. Pourquoi ? Eh bien parce que le bon Dieu fait toujours tout avec une extrême sagesse. Il avait préparé un peuple bien à lui pour pouvoir se donner au monde, pas seulement à son peuple, mais se donner au monde. Alors il respecte tout ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament et l'ordre de sa manifestation montre la grande sagesse de Dieu. Il se manifeste aux mages. Pourquoi ? Eh bien pour montrer dès à présent que le salut n'est pas seulement fait pour les Juifs, que le salut n'est pas seulement fait pour le peuple qui a été appelé à garder la promesse de Dieu dans l'histoire du salut. Non, c'est tous les hommes qui sont appelés à voir un jour Dieu. Et le Christ attire tous les hommes de fait à lui. Il est venu pour sauver tous les hommes, parce que comme le dit saint Paul, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il doit donc se manifester aussi d'une manière typique, dès qu'il est jeune, à tous, même aux païens, afin que tous croient que le salut est bien pour l'humanité tout entière. Tous, en effet, nous sommes appelés à rentrer dans l'Église et à répondre, au grand cadeau que Dieu est venu nous faire. Qu'est-ce que ces cadeaux que Dieu est venu nous faire ? Eh bien, le premier cadeau est le plus grand, au-delà de la grâce même, c'est la présence du Fils de Dieu sur la terre. C'est le don que Dieu fait, Dieu le Père, le don que Dieu fait de son Fils unique. Oui, si l'Épiphanie est une fête des cadeaux, et cela est vrai, eh bien ce sont des cadeaux spirituels qui sont là. À savoir, le plus grand cadeau qui est fait à l'Épiphanie, c'est celui de Dieu pour l'humanité. Dieu apparaît à tous les païens. Dieu apparaît dans les rois mages à tous les païens. Le Fils de Dieu se donne. Et déjà, c'est une anticipation de la rédemption qui se trouve ici même. Le salut est déjà donné en anticipation aux païens. Mais en retour, face à ce grand don de Dieu, face à ce cadeau merveilleux qui est comme en germe, eh bien les hommes vont se tourner vers le bon Dieu, vers le Christ Jésus, et le reconnaître pour ce qu'il est. Avant même de lui donner des cadeaux, remarquez bien un geste qui n'est pas un petit geste et qu'il faudrait reproduire peut-être plus souvent dans nos vies, et c'est une des leçons que les mages nous donnent, c'est cette grande leçon de l'adoration. Si nous avons génuflecté pendant l'Évangile, c'est parce que aussi les mages ont génuflecté devant le Seigneur Jésus. Oui, il faut d'abord et avant tout adorer profondément dans son cœur. C'est parce qu'ils rendent ce culte intérieur à Dieu, c'est parce qu'ils font cet acte profond de foi, d'espérance et de charité, c'est parce qu'ils reconnaissent qu'en face d'eux, il y a Dieu, qu'ils se mettent à genoux. Et seulement après, ils vont offrir leur cadeau. Eh bien, pour nous, c'est la même chose. D'ailleurs, pour tout cadeau, c'est la même chose. Le cadeau n'est que la manifestation extérieure de notre amour intérieur. S'il n'y a pas d'amour intérieur, notre cadeau est un geste qui n'a aucun sens, ou presque aucun sens. Alors, eh bien, il nous faut retrouver cette adoration de Dieu. Lorsque nous sommes chez nous devant la crèche, eh bien, il nous faut adorer profondément l'enfant Jésus, avec la Sainte Vierge, avec Saint Joseph, avec les bergers, mais aussi avec et surtout les mages. Non seulement ils adorent, non seulement ils rendent ce culte intérieur profondément ancré en eux, mais en plus, eh bien, ils vont sortir de leur cadeau tel que cela avait été prédit par le prophète Isaïe que nous avons lu en épître, eh bien, ils offrent à Dieu de l'encens, de la myrrhe et de l'or. Le Seigneur Jésus a droit en effet à ces cadeaux qui ont une symbolique, et on le rappelle à toutes les fêtes de l'Épiphanie, vous commencez sans doute à le connaître par cœur, mais enfin, rappelons-le, l'encens est fait pour Dieu. L'encens est offert à Dieu. Il est ce cadeau que l'on offre à la divinité. Aussi, lorsque les mages offrent cet encens au Christ Jésus, c'est pour reconnaître que celui qu'ils ont en face d'eux, eh bien, Dieu lui-même. Vrai Dieu, ils font cet acte de foi, cet acte de charité aussi, de dire, eh bien oui, ce petit enfant, malgré sa faiblesse, malgré sa petitesse, c'est bien Dieu qui est en face de nous. Aussi, ils offrent l'encens. En plus de cela, ils vont offrir la myrrhe. Pourquoi la myrrhe? Je pense qu'ils n'avaient pas vraiment conscience de ce qu'ils prophétisaient dans une certaine mesure. Pourquoi? Parce que la myrrhe servait à l'embaumement. Aussi, eh bien, déjà par avance, et symbolisait la mort de Jésus. S'il meurt, ça veut dire qu'il est vraiment homme. Aussi, ils reconnaissent, en offrant la myrrhe, que Jésus est bien, non seulement vrai Dieu, mais aussi vrai homme. Et enfin, ils offrent de l'or. À qui appartient l'or? À qui offre-t-on de l'or, si ce n'est au roi? Après avoir reconnu la divinité, l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, ils reconnaissent, eux les mages, eux les grands du royaume dont ils viennent, eh bien, que le Christ est vraiment le roi des nations. Au-delà de toutes les royautés terrestres, il y a une royauté particulière qui est à la fois céleste et puis aussi qui s'exerce dans le monde, qui est la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, eh bien, demandons spécialement aujourd'hui au roi mage de nous faire comprendre, premièrement, l'universalité du salut. Oui, Jésus est venu pour tous les hommes, pas seulement pour moi, personnellement, pas seulement pour ma petite âme personnelle, mais bien pour tous les autres aussi. Eh bien, nous devons, en réponse, savoir être missionnaire. Et aujourd'hui, eh bien, dimanche de la solennité de l'Épiphanie, il faut prier spécialement pour les missionnaires, parce que le salut ne s'adresse pas seulement à nous personnellement, mais à tous les hommes qui sont appelés à rentrer dans l'Église de Dieu. Les rois mages nous apprennent l'adoration. Il n'y aura de vraie mission que si on aura retrouvé le sens de l'adoration. S'il n'y a pas d'adoration du vrai Dieu, alors il n'y aura pas de mission auprès des autres pour leur faire découvrir ce cadeau incroyable qu'est l'incarnation et la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, eh bien, il nous faut poser des actes de foi, spécialement en la divinité du Christ, spécialement en l'humanité du Christ, spécialement en la royauté du Christ, et voir comment en nous cela peut s'inscrire, comment est-ce que je reconnais dans ma vie aujourd'hui que le Christ est vraiment Dieu, est vraiment homme, est vraiment roi. Est-ce que nous le laissons régner dans nos cœurs? Est-ce que vraiment nous voulons lui rendre un culte lorsque nous sommes à l'Église? Est-ce que nous faisons attention aussi à l'humanité de Jésus? Est-ce que nous le recevons, ce corps humain caché dans l'Eucharistie, avec toute la dignité, eh bien, que cela requiert? Est-ce qu'enfin la divinité du Christ dans ma vie est reconnue? Est-ce que je lui offre toutes mes prières, toutes mes louanges que je lui dois? Alors, eh bien, que les mages, que Notre-Dame également, nous apprennent ce beau parcours de la vie chrétienne, le seul qui nous permette un jour, eh bien, au ciel, de savoir rendre notre tribut d'adoration au vrai Dieu, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.